Radio Kapi.
Oh, Kapi. Des milliers d'enfants sont en difficulté d'accès à l'éducation dans les sites déplacés à Bunia. Ils sont plus de 6000 en âge scolaire dans le camp de Kigonze, mais moins de 1000 seulement fréquentent les deux écoles primaires du site et les conditions d'études laissent à désirer. Nord Kivu, il est strictement interdit d'importer, de vendre et de porter des tenues vestimentaires semblables à des effets militaires. Décision du gouverneur de province pour des raisons de sécurité, dit-il. Dans une communication officielle hier, le général-major Peter Chirimwami met en garde tout contrevenant. Et puis, ce matin, nous recevons Jean-Paul Matela, médecin-chef de division provinciale de la santé du Kwilu. Il revient sur la lutte contre le paludisme dans son entité et les efforts fournis l'an dernier pour baisser le taux de mortalité et de morbidité dans cette partie du pays. Madame, messieurs, bonjour. Nous commençons par l'Ituri. Des milliers d'enfants qui vivent dans des sites des personnes déplacées à Bunia ne sont pas scolarisés. Parmi les 6138 enfants en âge scolaire qui vivent dans le camp de Kigonze, dans le quartier Muzipela, moins de 1000 fréquentent les deux écoles primaires du site. Cependant, les conditions d'études laissent à désirer. Martial Kizabiamungu a visité ces écoles. Voici son reportage.
Nous sommes dans la salle de classe de deuxième primaire à l'école Bienheureuse Annualité située au site des personnes déplacées de Kigonze. Une petite école confrontée à d'énormes difficultés. Ici, les enseignants travaillent bénévolement et les salles de classe en mauvais état exposent les enfants à des intempéries. Les écoliers, quant à eux, manquent presque de tout. Odette Koumou, une des élèves, interpelle les autorités.
C'est la cause.
Nous avons manqué des uniformes, sacoches, cahiers et des stylos. Nous demandons l'aide.
Malgré la volonté des éducateurs d'encadrer ces enfants, les parents, dont la plupart, ne sont pas à mesure de s'acquitter de 3000 francs congolais mensuels des frais de fonctionnement, préfèrent garder leurs enfants à la maison. Assimoué Mugisa, responsable de l'école Bienheureuse Annualité, demande au gouvernement de penser à l'éducation de ces enfants victimes des conflits armés.
Les parents n'ont pas de moyens. C'est pourquoi que l'État puisse intervenir.
Les enseignants de deux écoles qui fonctionnent dans ce site de Kigonze disent avoir déjà cumulé 5 mois d'arriéré de salaire et de primes que leur doit le gouvernement provincial, ce qui entraîne une réelle démotivation chez ces encadreurs. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, c'est la fin du suspense pour la question des frais de participation aux épreuves de l'examen d'État édition 2024. Finalement, les élèves finalistes du primaire et du secondaire de toute la province seront pris en charge par le gouvernement central, rassure la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation, Priska Luanda Kamala, précise que les fonds sont déjà débloqués. Selon elle, cette subvention spéciale du gouvernement prend en compte à la fois les tests de fin de cycle primaire et NAFE et TENASOSP, ainsi que l'examen d'État. On écoute Priska Luanda Kamala, conseillère spéciale du gouverneur du Nord Kivu, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
On a trouvé que toute la population du Nord Kivu, sur le plan social, est entre guillemets déplacée, parce que si vous n'êtes pas dans les camps, vous recevez aussi des déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Alors, les plaidoyers ont été faits auprès du président de la République. C'est avec satisfaction que le gouverneur des provinces a reçu les messages que les frais sont déjà débloqués. Comme vous le savez, à l'école primaire, nous avons la gratuité. Mais aussi, au niveau de la 8e année, nous avons un examen qu'on appelle TENASOSP, qui sera aussi pris en charge par le gouvernement central, et l'examen hors session et la session ordinaire de l'examen d'État. Les parents qui avaient déjà payé les frais de participation à l'examen d'État, il y a déjà une note que nos services doivent écrire pour qu'on puisse rembourser cet argent. Mais aussi, ceux qui continuent à faire payer, ils doivent arrêter parce que le gouvernement central a déjà pris en charge les frais liés au TENAFEP, au TENASOS, à l'examen hors session et la session ordinaire de l'examen d'État.
La conseillère spéciale du gouverneur du Nord Kivu annonce par la même occasion que les mails contenant les copies des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sont déjà à Goma. Les épreuves débutent le 6 mai prochain. Dans le domaine de la santé de la reproduction, le Fonds de solidarité de santé FSS vient de faire l'évaluation de son programme de prise en charge médicale gratuite des femmes enceintes et avant, pendant et 28 jours après l'accouchement. L'évaluation s'est faite à Kinshasa du 24 au 26 avril courant. D'après Lubala Kampema, directeur général de FSS, plus de 85 000 femmes et nouveau-nés ont bénéficié de ce programme mis en place par le gouvernement depuis octobre 2023. On écoute le directeur général du Fonds de solidarité de santé dans cet extrait choisi par Tati Mapoukou.
Si je me rappelle bien les chiffres qui ont été présentés, on doit avoir déjà eu 85 000 personnes qui sont passées à travers le système. Nous y allons progressivement. Actuellement, nous avons une représentation à Kinshasa, nous avons une représentation à Matadi, nous avons une représentation à Kisantu. Et au fur et à mesure des demandes, au fur et à mesure des programmes qu'on met en place, on va s'étendre progressivement sur le reste du pays. Le point de départ est toujours une accréditation par l'ARCSU. C'est l'ARCSU qui a les conditions, qui vérifie qu'un centre de santé, une formation sanitaire, un établissement de soins de santé est viable d'abord. Viable du point de vue des équipements, viable du point de vue du personnel qui est en place, viable. Par exemple, ils vont aller regarder s'il y a de l'eau courante dans l'hôpital. S'il n'y a pas de l'eau courante, on ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, on a ajouté les conditions fiscales, parce qu'il faut montrer qu'ils ont un numéro d'impôt, il faut montrer qu'ils ont un compte bancaire, parce que nous, on ne donne pas de l'argent en main. Quand l'ARCSU a dit, bon, voilà la liste de ceux qui sont accrédités, maintenant nous pouvons signer une convention.
Direction le Nord Kivu. Interdiction stricte d'importation, de vente et de port des tenues vestimentaires semblables à des effets militaires. Décision du gouverneur de province sous peine de poursuite. Dans une communication officielle hier, le général-major Peter Chirimwami évoque des raisons de sécurité en province. En effet, le port de la tenue semblable à celle des militaires par certaines personnes ne permet pas de distinguer les vrais membres des forces de sécurité, des criminels et ou des infiltrés. Et cette situation sème une grande confusion dans la cité. On écoute à ce sujet le colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, propos recueillis par Denise Lukeso.
Il s'observe ces derniers temps le port des effets vestimentaires semblables aux uniformes des forces armées et de la police nationale congolaise par la population civile. Cette situation sème une grande confusion dans la cité et ne permet point de distinguer les vrais membres des forces et de défense, des sécurités, des criminels et ou des infiltrés ennemis en cette période d'agression dont notre pays est victime dans sa partie est. De ce qui précède, à dater de ces jours, pour raison de sécurité, l'importation, la vente, ainsi que les ports des 10 effets vestimentaires sont strictement interdits sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Tout contrevenant à cette mesure sera poursuivi et mis à la disposition de la justice militaire pour répondre de ses actes.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Le parquet général près la cour d'appel de Kalemi a arrêté il y a quelques jours certaines autorités du secteur de Kamalondo dans le territoire de Manono. Il a aussi perquisitionné la résidence de l'administrateur du territoire. Dans une déclaration vendredi à Radio Kapi, l'autorité de cette entité dénonce des arrestations arbitraires. Au parquet général de Kalemi, on annonce l'ouverture d'une enquête à Manono sans donner d'autres précisions. Le point avec Paulin Munanga.
Le substitut du procureur général de Kalemi est en mission de service dans les territoires de Manono depuis quelques jours. Il est en train de mener une enquête sur base des faits qui ont été dénoncés, signale une source au parquet général près la cour d'appel de Kalemi, sans donner de détails. Cependant, certaines sources rapportent que le parquet général a ouvert une enquête pour fraude minière et braconnage à Manono. D'après l'administrateur du territoire de Manono, le substitut du procureur général a arrêté les chefs de secteur de Kamalondo et les chefs de service de l'environnement pour avoir ordonné l'abattage d'un éléphant l'année dernière. Des Chinois sont aussi aux arrêts. D'après lui, il s'agit des arrestations arbitraires. Il dénonce aussi la perquisition de sa résidence en son absence. Cyprien Kitanga.
Les chefs de secteur l'ont arrêté. Pourquoi on a abattu cet éléphant-là, l'éléphant-là qui a tué l'enfant à Kamalondo? L'homme de l'environnement aussi, il est arrêté. Nous avons demandé qui était le plaignant, ils n'ont pas de plaignant. Ils ont commis que l'enfant infraction, c'est une arrestation arbitraire. Il y a les Chinois qui sont à la concession de M. Aldo à Kabombo. On ne sait pas leur infraction. Les substituts sont venus avec l'intention qu'il y avait le minerai, le cuivre, l'or. L'administrateur cache le minerai. Lui-même a cassé la clé du véhicule.
Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Dans la ville de Beni, des ravins et cours d'eau qui traversent la ville sont transformés en décharges publiques, un phénomène qui est à la base de la fréquence des cas de paludisme dans plusieurs ménages et qui conséquemment affecte les économies des ménages. Constat fait à l'occasion de la célébration le 25 avril de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Sadiki Aboubakar, reportage.
La ville de Beni est traversée par plusieurs cours d'eau, notamment Kilokwa, Monyabelu et autres. Il existe également des ravins, communément appelés Mabondeni, dans plusieurs quartiers dont Matongé, Malepe, Tamende et Kanzulinzuli. Ces endroits, bien que situés au centre-ville, sont devenus pour de nombreux ménages des décharges publiques. La dénommée Myriam habite non loin d'un cours d'eau, lequel est transformé en poubelle publique. Elle explique leur calvaire.
Nous sommes vraiment exposés. Tout le monde jette les immondices dans ces cours d'eau. Ça va proliférer les moustiques et nous créer des maladies telles que le paludisme.
Jonas Machozi, inspecteur urbain de la cellule d'assainissement à Beni, affirme qu'au regard du manque de moyens propres, l'hôtel des villes a sous-traité avec des entreprises privées pour la gestion des immondices.
Ces entreprises et associations qui ont des moyens appropriés pour évacuer les déchets de la ville vers les dépotoirs publics pour une meilleure gestion des déchets.
Cependant, ces entreprises font face à l'insolvabilité des ménages et propriétaires des commerces bénéficiaires du ramassage des déchets au centre-ville ajoutent la même source. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Lutte contre le paludisme toujours. Dans la province du Maniema, vu l'ampleur de cette maladie dans la communauté, la coordination provinciale du programme de lutte contre le paludisme PNLP Maniema a sensibilisé certains journalistes sur cette maladie. Florence Kiza y a pris part. Reportage.
L'objectif du programme provincial de lutte contre le paludisme en organisant cette activité est d'étendre la main aux médias pour la sensibilisation de la communauté. Docteur Amina Olimba, chargé de suivi et évaluation.
Nous avons invité la presse dans ces briefings parce que nous savons que à travers la presse, nous allons atteindre un grand nombre de la population dans le cas de la lutte contre le paludisme.
Pour leur part, les journalistes ont salué l'organisation de cette activité. L'un d'eux, Gentil Muyombo de la Radio Mali.
Personnellement, je suis content parce que je sors de cette activité avec les notions qui peuvent me permettre de bien sensibiliser la communauté sur le risque lié à cette maladie qui, comme venez de l'entendre ici, reste la première cause de consultation dans les structures de santé.
Bila Cléophas de la radio KFM, quant à lui, s'engage à accompagner la communauté dans la lutte contre le paludisme.
Dans le matière que nous avons été formés, et je prends sur mon engagement que je vais protéger la communauté contre le paludisme. Je vais les sensibiliser, je vais leur parler sur l'ampleur du paludisme exactement dans la province du Maniema qui prend l'ampleur de jour en jour.
L'équité en matière de santé, l'égalité des sexes et les droits de l'homme est le thème de cette année. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
La dernière semaine du mois d'avril, l'humanité célèbre la semaine de la vaccination. À Lubumbashi, les jeunes reporters de l'UNICEF sensibilisent les ménages pour la récupération des enfants en conflit avec le calendrier vaccinal. Hier, ces jeunes se sont rendus dans l'aire de santé de Mampala 1, dans la zone de santé de Mubunda. Reportage signé Vanessa Nkongolo.
Ils étaient au total 4 jeunes reporters de l'UNICEF à faire du porte-à-porte au quartier Guadolite dans la commune de Lubumbashi. Objectif, sensibiliser les parents des enfants sous-vaccinés et à zéro dose. L'un des parents, Esther Balengue, s'exprime.
C'est le même et deux enfants qui n'ont pas eu le vaccin. Le garçon, il a 2 ans. La fille ici, elle a 1 année et 6 mois. Bon, on était toujours en voyage, on n'était pas dans une même place pour que je puisse prendre tous les vaccins des enfants.
À l'occasion, Lydie Mboui, infirmière au centre de santé Mumbunda 2, demande aux parents d'amener les enfants pour la vaccination.
Que les mamans viennent avec leurs enfants pour que les enfants aient leur vaccin. Vacciner, c'est aimer. Nous sommes là pour les recevoir.
Pour sa part, Katanga Moussaou, enfant reporter de l'UNICEF, invite les hommes à suivre aussi les calendriers vaccinaux de leurs enfants.
Je demande aux hommes d'accompagner leurs femmes à l'hôpital pour les vaccins de leurs enfants. Est-ce que la femme pourra avoir quelques négligences? Parce que c'est ce que nous avons constaté. Et si l'homme aussi est impliqué, la femme va prendre trop ça à cœur et au sérieux.
La semaine de vaccination prend fin ce 28 avril. Lubumbashi, Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Burkina Faso a suspendu les stations de radio BBC et La Voix de l'Amérique pour avoir couvert un rapport de Human Rights Watch sur un massacre des civils perpétré par les forces armées du pays. La porte-parole de la communication du Burkina Faso déclare que les deux stations de radio sont suspendues pour 2 semaines et avertit les autres réseaux médiatiques d'éviter de rapporter cette histoire. Selon le rapport publié jeudi par Human Rights Watch, l'armée a tué quelque 223 civils, dont 56 enfants, dans des villages accusé de coopérer avec les militants.
L'invité.
Il s'agit du docteur Jean-Paul Matela, chef de division provinciale de la santé du Kwilu. Il revient notamment sur la lutte contre le paludisme dans son entité et les efforts fournis l'an dernier pour baisser le taux de mortalité et de morbidité. Le docteur Matela est avec Irène Boma.
Docteur Jean-Paul Matela, bonjour.
Bonjour madame.
La DPS Kwilu vient de célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pouvez-vous nous parler de la situation du paludisme dans l'ensemble de la province du Kwilu en 2023, par exemple, s'il faut aussi comparer avec l'année 2022?
Oui, madame journaliste. En 2022, il y avait environ 1 186 000 cas de paludisme à travers toute la province, diagnostiqués dans nos formations sanitaires, dans nos sites de soins communautaires et ont été rapportés chez nous. En majorité, c'était les enfants de moins de 5 ans, environ 553 000 qui ont fait les paludes. Malheureusement, cette année-là, il y avait 64% des décès d'enfants de moins de 5 ans dus au paludisme, sans compter les cas de décès qui surviennent dans les ménages. Et en 2023, après la campagne de distribution des moustiquaires qui a eu lieu vers la fin de l'année 2022, on a constaté une baisse des nombres de cas dus au paludisme et surtout la baisse des nombres de décès des enfants de moins de 5 ans. Si on compare les 55% d'enfants de moins de 5 ans décédés en 2023 sur paludisme par rapport à 64%, donc il y a eu une baisse que le programme a constatée au niveau de la province. On était à 1 055 000 cas, contrairement à 1 186 000. Et donc, même sur le plan morbidité, nous avons constaté aussi une baisse des nombres de cas en 2023. Voilà.
Et au regard de tous ces cas-là que vous avez enregistrés pendant ces 2 ans, quelle est la politique que la DPS Kwilu a appliquée dans la lutte ou la prise en charge contre le paludisme?
Voilà, c'est une très bonne question que les auditeurs doivent suivre. Nous avons les aspects de prévention. Et au niveau de notre province, la première prévention, comme en 2023, on a rendu disponible la moustiquaire à travers la campagne de distribution gratuite de moustiquaires. Le PNLP a fait avec l'appui de Sanru et Fonds Mondial. Et nous avons des femmes enceintes qui viennent aux consultations prénatales, comme le chef de l'État a décrété la gratuité de la maternité. Celles qui viennent aux consultations prénatales, elles bénéficieront d'une moustiquaire pour la grande protection. Nous allons ajouter encore des moustiquaires aux enfants qui respectent les calendrier vaccinal et qui termine leur cycle de vaccination, on leur donne aussi la moustiquaire. Sur le plan préventif, jusque-là, qui passe à travers les structures de santé. Mais aussi, tout le monde qui tombe malade doit se présenter dans les établissements de soins pour qu'on traite la malaria et qu'il n'y ait pas de cas de décès qui surviennent dus au paludisme. Donc, les médicaments sont gratuits dans toutes les formations sanitaires, malgré quelques difficultés qu'on peut avoir avec le personnel sur la gestion des médicaments, avec les partenaires sur la disponibilité des médicaments. Mais Sanru et FDSS font quand même l'effort de rendre disponibles les médicaments dans nos formations sanitaires et nous continuons à fonctionner.
Est-ce qu'il y a encore d'autres défis qui restent à relever pour lutter contre les paludes?
Beaucoup, beaucoup de défis. Imaginez, nous sommes dans un environnement équatorial ici. Et donc, c'est difficile Les milieux marécageux sont aussi nombreux, mais avec les mesures que nous avons suivies, la population s'est engagée à faire l'assainissement du milieu, à curer tous les caniveaux et tout consort. Nous pensons que nous allons réussir.
Et monsieur le CD, pour clôturer, quel est votre message à la population par rapport à la lutte contre le paludisme?
Oui, je vais relayer le message du gouverneur de province. Il a appelé la population du Kouilou à adhérer aux mesures de lutte, à l'assainissement du milieu. Le plus simple, assainir son milieu. Pas de boîte de conserve autour de sa maison ou bien dans sa maison, sinon les moustiques vont pondre les œufs là-bas et ça va éclore, ça va multiplier le nombre de moustiques dans notre environnement. Donc il faut assainir les milieux, pas de flaques d'eau, pas de boîte de conserve, pas de pneus qui gardent de l'eau stagnante. Et puis là où nous sommes dans les maisons, il faut dormir, faites dormir tout le monde sous la moustiquaire. Et quand ça nous déborde, quand une personne présente la fièvre, vite, vite, allez avec lui dans une formation sanitaire pour le prendre en charge, pour avoir les médicaments, guérir de la malaria.
Docteur Jean-Paul Matela, nous vous disons merci beaucoup.
Merci madame, merci.
Le chef de division provinciale de la santé du Kouilou répondait aux questions de Irène Boma. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.